Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'entamer cette semaine avec vous et avec Culture Média au menu. Média et culture au sens large, au sens réjouissant. Il y aura évidemment Bruno Donnet pour ses télescopages, le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, Marc-Antoine Lebray et ses voix en toute fin d'émission. Et dans quelques instants, le journal des médias et les audiences télé d'hier soir et du week-end avec Louise Bernard. Dans nos indispensables du jour du cinéma, Héloïse Goy nous dira pourquoi il faut aller voir Une femme du monde avec Laure Calamy dans le rôle d'une prostituée. Aucun rapport, quoi qu'il soit question en quelque sorte de mise à nu, notre infomédia avec les coulisses de la campagne présidentielle. TF1 lance une série doc qui suit les candidats, par exemple Valérie Pécresse, élue candidate LR, ou Zemmour à la recherche de financement à Londres. Série en 4 épisodes, un par mois, co-réalisé par le grand reporter François-Xavier Ménage. Il sera avec nous dans quelques minutes. Nos invités ensuite, Carole Gessler qui présente le 19-20, mais également l'émission mythique des Racines et des Ailes. Le thème de la prochaine, Paris sur scène, 1000 ans d'histoire. Nous serons également avec la rédactrice en chef de l'émission C'est important, Hélène Frandron. Enfin, Philippe Gueluc pour Les mots du chat chez Casterman, un recueil d'aphorismes sous-titré Les écrits restent. Double actu pour Gueluc puisqu'on va aussi parler de son expo de statues en bronze monumentale et de son projet du musée du chat. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias, Louise.
Le bilan du Téléthon qui s'est terminé ce week-end, la presse attaquée hier lors du meeting d'Éric Zemmour, CNews mise en demeure par le CSA, l'avenir des Césars qui sera bien sur Canal+, et puis on finira avec Laurent Ournac qui nous a raconté le tournage du nouvel épisode de Camping Paradis, qui n'était ni au camping, ni vraiment le paradis, vous verrez.
Mais d'abord les audiences, qu'ont regardé les Français hier soir?
Ils ont regardé Les Tuches 2, c'était une rediffusion mais qui a attiré beaucoup de monde encore une fois, 4 240 000 téléspectateurs. C'est presque le nombre d'entrées d'ailleurs qu'avait fait le film à l'époque, 19,6% de part d'audience. Deuxième, France 2 avec le film La Mule, là aussi en forme. Le film de Clint Eastwood a attiré 3 670 000 téléspectateurs, 16,9% de part d'audience. Et puis troisième, France 3 avec sa série britannique qui marche toujours aussi bien, Les Enquêtes de Vera, 3 480 000 téléspectateurs. Bon, c'est un petit peu moins que le lancement la semaine dernière. C'est toujours normal dans ce sens-là. 15,5% de part d'audience.
Et à propos de Tuche, Isabelle Nanty sera avec nous demain pour parler de la sortie cinéma des Tuches. Ça, c'est pour les audiences d'hier soir. Louise, on continue avec celle du week-end. Samedi soir, quelle chaîne était en tête?
France 3 et sa série Mongeville, 3 900 000 téléspectateurs. Alors, c'était une rediffusion, mais qui a largement battu TF1, dont l'émission de zombies District Z était de retour pour une deuxième saison. Retour très décevant avec 2 millions de téléspectateurs seulement. Je vous laisse faire le calcul, c'est deux fois moins que la rediffusion de France 3.
Incroyable.
C'est la plus faible audience depuis la création de l'émission. Et pourtant, Arthur, le créateur et producteur, avait fait quelques ajustements. Il avait voulu tenir compte des remarques des téléspectateurs. Il avait promis une saison plus musclée. On verra à l'avenir si ça marche un petit peu plus. M6 est troisième avec deux épisodes de NCIS Los Angeles, suivi par 1 520 000 téléspectateurs.
Et on finit cette page audience avec celle de vendredi soir.
Mais décidément un bon week-end pour le service public. En tête vendredi soir aussi, grâce à un téléfilm inédit sur France 2, 4 980 000 téléspectateurs, joli score, hein, devant Coup de sang, mieux que la rediffusion de Capitaine Marlowe la semaine dernière. Une deuxième place pour TF1 et Camille Combal, l'émission Camille Images a été regardée par 3 300 000 téléspectateurs. C'est près d'un million de plus que le numéro précédent,
ah oui.
Donc c'est un bon score là aussi. Et puis troisième place pour M6, encore vendredi soir aussi, avec Maison à vendre, 2 200 000 téléspectateurs.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec une bonne nouvelle, un bilan en hausse pour le Téléthon.
Oui, le week-end de mobilisation sur France Télé et partout en France a permis de récolter 73 622 019 euros de promesses de dons, bien plus que l'an dernier où le compteur avait affiché 58 millions d'euros à la fin du week-end. Mais les dons avaient continué hein, les jours suivants, atteignant finalement 77 millions d'euros. Cette année aussi, vous pouvez continuer par téléphone. Hein, le 3637 reste ouvert ou sur Internet.
De multiples incidents avec la presse lors du meeting d'Éric Zemmour hier. «
quotidien Collabo, c'est ce que scandait la foule hier après-midi, extrait d'une vidéo d'un journaliste de la chaîne France Info présent sur place, Jean-Rémy Baudot. L'équipe de l'émission Yann Barthès a dû être exfiltrée par le service de sécurité par précaution, tant elle était huée et prise à partie par une foule de militants dans la salle. Elle a finalement pu rejoindre cette salle peu après et continuer de travailler. Ce ne sont pas les seuls journalistes attaqués hier. Ceux de Mediapart, de l'émission à l'air libre, ont reçu des coups. Ils ont été identifiés par le logo sur leur micro. D'autres journalistes ont été insultés, notamment un reporter du Huffington Post ou encore un photojournaliste qui raconte avoir été bousculé et menacé avec ces mots d'un partisan d'Éric Zemmour. « Je ne pardonne plus, je tue ». Il fait état de vol de matériel également.
La chaîne CNews mise en demeure par le CSA.
Oui, c'est une sorte d'avertissement avant sanction. Le gendarme de l'audiovisuel lui reproche de ne pas avoir respecté les règles du temps de parole, celles qui garantissent le pluralisme. Dans le détail, le CSA a constaté que CNews avait relégué les temps de parole de l'exécutif et de la France Insoumise à des heures de très faible audience, c'est-à-dire entre minuit et 6 heures du matin. Alors selon son décompte, ça concerne plus de 82% des interventions des membres de l'exécutif, 53% pour la France Insoumise. La chaîne a donc jusqu'au 31 décembre pour se conformer à la loi.
Cinéma maintenant, les Césars vont continuer d'être diffusés sur Canal+.
Au moins jusqu'en 2025, et ce sera l'année de la 50e édition. L'Académie et la chaîne Cryptée qui viennent de renouveler leur partenariat pour 3 années supplémentaires. Canal+ diffuse la cérémonie depuis près de 30 ans. La prochaine a lieu le 25 février prochain avec Antoine Decaune à la présentation. Et une lourde tâche, remonter les audiences qui étaient au plus bas depuis 10 ans l'an dernier.
Et puis on termine avec Camping Paradis de retour ce soir sur TF1 pour un épisode très particulier.
Il n'a pas lieu au camping, il n'a pas lieu près de la plage, mais à la montagne. C'est une première pour la série, une délocalisation. Direction Morzine en Haute-Savoie pour la bande. Alors pour les connaisseurs de la série, c'est le père de Xavier qui a invité son fils, qui a invité Tom, Audrey et André à venir passer quelques jours dans l'hôtel qu'il vient d'acheter dans la station de ski. La bande mené par l'acteur Laurent Ournac, qui est également réalisateur pour l'occasion. C'est le 4e épisode de la série qu'il réalise et c'est un double rôle pas toujours évident.
C'est un investissement de travail beaucoup plus long, c'est beaucoup plus de semaines de travail. Et puis les journées, une fois qu'on est pendant le tournage, il faut passer d'une casquette d'acteur à une casquette de réalisateur. Et c'est sûr que c'est d'autant plus intense, surtout sur des tournages de fiction où le rythme est quand même assez soutenu. Donc c'est vrai que quand on fait les deux, c'est pas toujours simple. Mais en même temps, j'aime travailler vite, j'aime quand c'est speed, j'aime pas les temps morts. Donc du coup, c'est vrai que ça me permet aussi d'avoir ce rythme-là sur les tournages où je gère les deux.
Et ce projet d'épisode à la neige remonte à très longtemps puisqu'il a été envisagé dès le début de la série, il y a plus de 10 ans. Mais ça ne s'était jamais concrétisé jusqu'en 2018 où TF1 a finalement relancé l'idée. Et puis en 2020, le tournage finit par se lancer. Début mars 2020, ça vous dit quelque chose. La France finit par être confinée, le tournage est donc arrêté. Il peut reprendre en janvier 2021, mais oui, parce qu'il faut de la neige quand même pour tourner, donc on ne peut pas tourner l'été. Bilan de Laurent Ournac, un tournage épique, m'a-t-il dit.
On s'attendait à un tournage difficile, mais alors ça a battu toutes nos espérances. L'arrivée de ce Covid en 2020, on avait un peu l'impression que c'était Walking Dead à la montagne. C'était un truc tellement dingue qui arrivait. Personne n'avait mesuré les tenants et les aboutissants de ces situations-là. Donc c'est vrai que ça a été un tournage où il y a eu des moments forts, il y a eu des moments durs, il y a eu des moments humains avec beaucoup d'inquiétude dans les regards et en même temps par moment de la légèreté parce que le programme qu'on tourne reste un programme familial et léger, mais quand tout le monde s'est retrouvé, voilà, il y avait une vraie surmotivation de se retrouver, de pouvoir travailler.
Le résultat est enfin visible depuis sa date de 2018 quand même, ce projet. C'est ce soir à 21h05 sur TF1, Camping Paradis.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant sur Europe, notre info média du jour, une série documentaire à découvrir ce soir sur TF1 dans les coulisses de la campagne présidentielle qui a connu un grand coup d'accélérateur ce week-end. Vous allez découvrir les femmes et les hommes de l'ombre derrière les candidats. C'est co-réalisé par le grand reporter François-Xavier Ménage qui sera notre invité. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Une meute de journalistes comme on n'en avait plus vu et qui recule d'un seul bloc à l'arrivée des deux finalistes du congrès du Parti Les Républicains. C'est ce qu'on a pu voir samedi, rue de Vaugirard, au siège des LR, avant la proclamation de Valérie Pécresse comme candidate officielle. Hier, c'est le candidat Zemmour qui faisait une démonstration de force à Villepinte. Sans se passer de débordement, l'équipe de l'émission Quotidien a été exfiltrée de la salle. Et depuis ce week-end, la campagne semble avoir pris sa dimension présidentielle. Les journalistes accrédités vont nous faire suivre cette dernière. L'un d'entre eux est avec nous ce matin. Il nous propose un grand format. C'est une première sur cette chaîne. 4 épisodes diffusés une fois par mois au plus près des équipes, des candidats. Cela s'appelle la bataille de l'Élysée. Le premier épisode sera visible ce soir sur TF1 aux alentours de 22h55. François-Xavier Ménage, bonjour.
Bonjour.
Vous signez, vous co-signez avec les journalistes Elisa Hélin et Claire Lessing cette bataille de l'Élysée sur TF1. Question technique, vous avez pu dormir ces derniers jours ou pas du tout?
Vous savez, il y a une expression qui s'appelle avoir des fesses sous les yeux. Là.
Ouais.
Vous voyez ou pas?
Oui, je les vois, je ne connaissais pas l'expression, mais je les vois.
On n'a pas dormi, mais c'est pour la bonne cause, vraiment.
Vous étiez en montage, évidemment. Oui. Vous avez fait deux fois 24 heures d'affilée, si je suis bien informé.
Un peu de choses près, ouais.
La politique sur TF1, dans les dernières campagnes, c'était des émissions avec les candidats face aux Français ou alors des débats dans les dernières semaines avant l'élection. Pourquoi ce choix de TF1, de ce format documentaire?
On a un patron de l'info qui s'appelle Thierry Tulier, qui est le premier à savoir que la plupart des candidats, quand ils déclarent aujourd'hui qu'ils se lancent dans cette campagne présidentielle, c'est vrai, c'est arrivé ces derniers mois, ils viennent dans le 20h de TF1. Les événements en matière d'interview, dans cette présidentielle comme auparavant, mais peut-être plus encore cette fois-ci, ça se passe au 20h. Je ne dis pas ça parce que j'ai des actions TF1, hein, mais c'est la vérité aujourd'hui.
Et Éric Zemmour, pour ne parler que de lui, est au 20h de TF1.
Voilà, et on le raconte d'ailleurs dans le documentaire de ce soir. Il y a autre chose, TF1, et je suis bien placé pour le savoir, moi je suis reporter. TF1, la puissance de cette chaîne en matière d'info, c'est le reportage. Et donc, c'est la deuxième branche, si je puis dire, de l'arbre, c'est que c'est par le biais du reportage qu'on raconte cette présidentielle. Et on a cette chance, je dis bien cette chance, parce que vous avez cité Claire et Elisa, mes collègues, et pendant un mois, on a bossé matin, midi et soir sur le terrain. Mais on a cette chance de raconter, dans une longue phrase qui dure une heure, on a cette chance de raconter des coulisses de campagne, d'avoir les moyens de le faire. Et c'est une belle manière, je pense, de raconter ce qui se passe avec tous les candidats.
Il y a deux manières de filmer les coulisses. Il y a ce que vous faites, et puis aussi ce que font, par exemple, ce qu'a fait Netflix dans la série Drive to Survive, où ils filment pendant toute la saison, mais ils diffusent à la fin, ou Les yeux dans les bleus, signé par Stéphane Meunier, où on a vu la victoire de l'équipe de France. Mais quand les gens sont filmés dans les vestiaires, Aimé Jacquet et ses joueurs, ils ne savent pas qu'ils vont être champions du monde. Et on voit les engueulades totalement sans filtre. Vous avez fait le choix de diffuser au fur et à mesure. Or, historiquement, par exemple la bataille de l'Élysée ou la bataille pour la mairie de Paris, on voyait la chose après le résultat de l'élection annoncée. Pourquoi ce choix? C'est la première question. Et la deuxième question, quelles difficultés cela crée auprès des équipes, des candidats?
Alors, des difficultés, il y en a plein, c'est certain, mais on va vous raconter comment on les dépasse. Ce qui est intéressant d'abord, c'est, moi je pense aux téléspectateurs, ils allument leur télé, ils ont cette chance, entre guillemets, de savoir par le biais de ce documentaire comment ça se passe en coulisses, avant de voter. Et c'est la grosse différence. Donc ça veut dire que nous, on bataille. Et avec Guylaine Chenu, on est allé voir, parce qu'elle fait la rédaction en chef de ce documentaire, et je la salue parce qu'elle nous a largement aidé depuis un mois, c'est le moins qu'on puisse dire. On est allé voir tous les QG avec Guylaine. Et on leur a dit, on veut bosser avec évidemment des accès auprès de ces candidats, mais pour montrer mois après mois comment tout ça se profile, comment tout ça s'enchaîne. Ils ont dit oui.
Tous ?
Ils ont tous dit oui. Attention, ça ne veut pas dire que c'est open bar et qu'on peut les suivre matin, midi et soir. Ça n'est plus possible en 2021-2022. Ça n'existe plus.
C'est une question que j'avais prévue pour la fin de l'entretien, mais je vous la pose maintenant. Pourquoi on ne voit pas les équipes de Jean-Luc Mélenchon ?
Parce qu'on va beaucoup le voir dans l'épisode 2. Parce qu'on a une douzaine de candidats, entre guillemets, sérieux. Donc évidemment, on ne peut pas tous les montrer dans le même documentaire et qu'on préfère prendre du temps pour expliquer les choses candidat par candidat. Maintenant, la question, c'est aussi, oui, évidemment, quand on vous donne plein d'accès incroyables, mais que vous diffusez après la présidentielle, ça n'est pas le même enjeu. Et donc évidemment, pour un candidat, c'est plus facile de dire tout ça, vous me le montrerez une fois que j'aurai été élu ou que j'aurai perdu. Nous, effectivement, l'enjeu il est autre, il est de montrer comment la fabrique politique s'installe mois après mois. Donc c'est plus de négociations, mais je pense que ça donne une matière intéressante pour les électeurs.
La fabrique politique, vous avez accès aux équipes de campagne, derrière chaque candidat, un personnage clé. C'est le cas notamment pour Valérie Pécresse. Et je rappelle qu'elle était victorieuse du Congrès des Républicains. À ses côtés, son directeur de campagne, c'est Patrick Stefanini. La victoire de Chirac en 95, c'est lui. La victoire de Fillon à la primaire de la droite en 2016, c'était lui. Et on peut dire que ça rigole pas avec Stefanini. Extrait d'une réunion de coordination pour que la candidate Pécresse se rende dans le plus de fédérations possible. Et certaines fédérations manquent à l'appel.
C'est pas très normal parce que moi, j'avais signalé il y a plus d'une semaine à M. Verdier qu'on avait 4 départements qui ne donnaient pas de nouvelles, qui n'avaient jamais rappelé, etc. Et il y avait le Cantal, en effet, mais il y avait aussi l'Ardèche.
Ils savaient une dispo, que moi j'ai arrêté de rappeler depuis plus rien.
Moi, je me livrerai. Hein. S'il y a des départements qui, au final, par mauvaise volonté, auront refusé d'accueillir soit Valérie, soit un représentant de Valérie, on ne va pas en rester là. Ils vont avoir une publicité pour ces départements qui n'imaginent pas.
Ça file droit avec ces menaces à peine voilées. C'est une réunion en visio. C'est très intéressant pour les téléspectateurs de voir ces personnages de l'ombre. On est la petite souris, on voit comment ça se passe en vrai. Moi, j'ignorais totalement comment ça se passait en vrai. Est-ce que parfois, on vous demande quand même de couper certaines choses ?
Alors, dans le cas présent, c'est ma collègue Claire Lessing qui est allée faire cette séquence. C'est vraiment le mot. Hein. On se met dans une pièce, on voit ce qui se passe. Après, d'expérience, je ne m'appelle pas Alain Duhamel, mais au bout de 4 présidentielles, moi je ne suis pas journaliste politique, hein, mais j'ai eu la chance de couvrir 4 présidentielles, c'est la 4e, et très clairement, il y a des cas de figure, on vous dit, vous venez 2 secondes, vous faites des photos, puis vous foutez le camp. Et la plupart des réunions que l'on filme, on est présent du début à la fin. Donc ce n'est pas Hollywood. On peut jouer avec les caméras pendant 2 minutes, mais au bout d'un moment, on reste à l'essentiel, c'est-à-dire on fait de la politique quand on est homme ou femme politique.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que, justement, parce que vous êtes là présent, il arrive que quelqu'un vous dise « ce passage-là, tu le coupes ».
Non, on ne l'a pas entendu dans les semaines et semaines qu'on a eu de tournage, de même que personne ne nous a demandé de regarder les montages de ce qu'on a fait. Donc franchement, liberté totale de ce côté-là.
Vous suivez également Éric Ciotti, notamment dans une improbable élection de Super Mamie, avec des reprises de Tata Yo-Yo sur scène. Je laisse ce plaisir aux téléspectateurs, c'est un moment de télévision comme on dit.
C'est un moment politique en vrai, hein. C'est
oui,
ça qui est intéressant aussi.
Tata
ouais.
Yo-Yo.
Non, mais ce que dit Éric Ciotti sur la scène, à ouais. ce moment-là.
Oui, vous avez pu le constater avant la surprise, vraiment cette surprise, quoi. Un effet Ciotti. On voit peu Michel Barnier dans votre documentaire. Il y a un grand absent, c'est le perdant qui était donné, en tout cas qui lui-même se voyait comme favori, Xavier Bertrand. Comment vous avez travaillé avec ces équipes ? Vous le suiviez également ? Pourquoi on ne le voit pas, Xavier Bertrand ?
On l'a suivi aussi, parce que vous imaginez quand même le défi, il y a plus d'un mois quand on commence les tournages, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, parce que c'est facile aujourd'hui de dire que c'est Pécresse qui a émergé, mais il y a un mois, personne ne le savait. Et donc on avait option A, option B, option C, option D. Donc ça demande beaucoup de moyens sur le terrain. On ne peut pas tout garder. Pour être tout à fait transparent, pour ce qui est de Xavier Bertrand, on avait des heures et des heures d'enregistrement. On n'a pas pu tout mettre, et c'était peut-être pas non plus le candidat qui offrait les accès les plus simples.
Mais vous n'étiez pas là quand il apprend sa défaite ?
Non. On n'était pas là. D'ailleurs, en vérité, je ne suis pas persuadé que cette image existe.
Autre candidat déclaré, Éric Zemmour. Comment avez-vous travaillé avec son équipe ? On marque une pause et François-Xavier Ménage nous répond. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
La bataille de l'Élysée, c'est un exercice d'un genre nouveau pour TF1. C'est une série documentaire, journalistique, 4 épisodes, un épisode par mois jusqu'à l'élection. Un des co-réalisateurs est avec nous dans ce studio, c'est François-Xavier Ménage. Vous suivez les candidats, vous suivez les équipes des candidats. Enfin, il est déclaré Éric Zemmour. Comment avez-vous travaillé avec son équipe ? Vous n'avez pas attendu sa déclaration de la semaine dernière pour prendre contact.
Ah non,
comment ça s'est passé ? Parce que je ne vais pas tout spoiler, mais je vais commencer à le dire à nos auditeurs. Il y a des images absolument inédites au cœur de la campagne d'Éric Zemmour qu'on voit dans votre doc.
Oui, on savait ce qu'on cherchait. C'est-à-dire qu'on a rencontré ses équipes, évidemment, il y a maintenant de nombreuses semaines. Et on leur a demandé une séance de travail dans laquelle on voit Éric Zemmour réfléchir à un discours avec sa conseillère de l'ombre, Sarah Knafo.
Dont on parle beaucoup, je dois dire, c'était la première fois de ma vie que j'entendais le son de sa voix.
Voilà. Donc nous, très clairement, je veux dire, on avance avec des armes de journalistes. On leur dit, on aimerait filmer cette séquence, pas de manière volée. On veut être la caméra qui pourra filmer la manière dont ça se passe, la maïeutique entre deux. Mmh. Alors des semaines et des semaines à demander, arrive le moment où, c'est toujours pareil dans ces cas-là, hein, vous mettez un pied dans la porte et on a le feu vert. Et donc, on est à Londres, un déplacement qui est compliqué pour le bientôt candidat Zemmour. Et c'est vrai qu'on va voir pendant de longues minutes comment un discours de pré-campagne se met en place et à quel point, c'est surtout ça qui fait sens, à quel point ils sont deux à réfléchir à la stratégie. Il n'est pas tout seul, elle est très présente, notamment sur le front des idées identitaires.
Oui, parce qu'il y avait un souci pour Éric Zemmour, c'est qu'en fait, il n'a pas pu se produire dans la salle qu'il aurait souhaité investir. Cette interdiction vient du maire de Londres, Sadiq Khan. Et donc, il s'entretient avec son équipe pour préparer des idées de discours et Sarah Knafo qui donne des idées de punchline aux futurs candidats document.
En arrivant, je pense que c'est important de mettre le contexte dans lequel tu es accueilli, le maire de Londres.
Alors, j'allais le dire, est-ce qu'on commence par ça ou est-ce que je commence
moi,
tout de suite ?
Au tout début, un petit mot sur Sadiq Khan versus Hidalgo, les deux qui détruisent leur ville, l'insécurité qui a explosé.
Qui détruisent leur ville et qui détruisent l'esprit même de Londres. c'est-à-dire la liberté. La liberté de penser, la liberté de parler. Enfin, je veux dire, quand même, Voltaire, il va à Londres, Chateaubriand, il va à Londres, De Gaulle, il va évidemment
à Londres. T'as des islamistes qui ont le droit de faire des prêches dans Hyde Park, et toi, t'as pas le droit de louer une salle.
Ah non, mais c'est fou.
Et là où c'est absolument incroyable, on ne va pas tout montrer et tout dévoiler, c'est qu'à la suite de ça, il y a le discours d'Éric Zemmour devant une forte assemblée, et il reprend tous les éléments de langage.
C'est
les,
la démonstration.
Les islamistes qui ont le droit de prendre, faire des discours dans les parcs, etc. Et, et la combinazione et Sadiq Khan, Madame Hidalgo.
C'est intéressant journalistiquement pour nous que de montrer tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas de la coulisse où on allume une caméra et on s'arrête. On accompagne ces moments-là. Et je pense que c'est en ce sens que le documentaire, justement, nous donne à réfléchir. C'est qu'on voit les candidats en action. On contextualise, nous, on fait notre boulot de journaliste et c'est évidemment la raison d'être de ce documentaire sur TF1 ce soir. Et comme ça, après, chacun se fait son idée, mais on comprend cette fabrique sans être seulement, nous, en tant que journaliste, spectateur, bien sûr.
Sarah Knafo, on la voyait sur les images auprès d'Éric Zemmour, mais jusqu'à présent, elle refusait toujours de répondre aux questions des journalistes. Cette fois-ci, elle a accepté. Quel argument de vous l'a convaincue ?
Alors, je vais vous répondre de la plus franche des manières. Et une fois de plus, moi, je ne suis pas journaliste politique. Donc, je veux dire, je rentre dans le bain pour 4 mois et après, je ressors. On a eu des arguments de journalistes. On a dit que ça nous intéressait. On voulait voir cette maïotique.
Oui,
c'est les mots précis que j'ai employés. Sauf que quand on le demande 15 fois, la 16e, ça marche. On est là au bon moment. Ça, c'est aussi notre boulot que de réussir à trouver ces fenêtres de tir. Et puis, ils connaissaient nos arguments. On ne fait pas les choses à l'envers. La caméra est frontale face à eux. Et on y va. Je ne peux pas vous le dire autrement. On a eu cette chance, effectivement, de capter un échange long et politique entre deux qu'on n'avait jamais vu avant. Mais franchement, c'est battu avec des armes de journalistes. Point à la ligne.
Puisqu'on parle de coulisses, la semaine dernière, Éric Zemmour s'est déclaré candidat. Il est invité, vous l'avez dit, on l'a dit, aux 20h de Gilles Boulot, donc sur votre chaîne, sur TF1. À la fin de l'entretien, il n'est pas content du tout et il s'en plaint, c'est sur BFM TV.
Si vous voulez, c'était une interview d'un procureur, alors que Gilles Boulot, d'abord, TF1 ne m'avait pas prévenu de cela, il m'avait dit autre chose. Et que si vous voyez toutes les interviews de M. Boulot pour tous les autres candidats, vous verrez la différence.
J'aimerais voir cette question. Vous êtes à TF1, vous êtes au cœur du réacteur. Est-ce qu'il y a des négociations qui sont faites avant un entretien ? Est-ce que TF1 avait annoncé des choses au candidat Zemmour qui n'ont pas été respectées, de ce que vous en savez ?
Alors écoutez, je connais le chef du service politique que j'estime beaucoup, qui s'appelle Adrien Gindre. Je connais surtout et aussi Gilles Boulot, dont je salue le professionnalisme, mais alors le matin à 8h du mat, comme le lendemain à minuit. Je veux dire, ce ne sont pas des personnes qui connaissent évidemment ces exercices-là, dont je peux à aucun moment mettre en cause le professionnalisme. Donc non, je ne peux pas imaginer qu'il y a des choses qui se passent en sous-main. Évidemment non, c'est une interview politique d'un candidat qui se présente à la présidentielle. Après, toutes les questions peuvent être posées. Vraiment, enfin, je sais juste que ce sont des gros professionnels qui ont fait cette interview, point la ligne, vraiment.
Je répète ce qu'a dit Éric Zemmour, sans vouloir donner caution à ce qu'il dit. Il dit, TF1 ne m'avait pas prévenu de cela, il m'avait dit autre chose.
Je n'en sais pas davantage, mais simplement, je sais que quand on est candidat et qu'on arrive sur un 20h à TF1, on imagine qu'on réfléchit à toutes les questions qui seront posées.
Est-ce qu'il y a des deals pour vous de cette manière ? Est-ce qu'il y a, par exemple, quand vous allez filmer, on vous dit, il y a des sujets qu'on n'évoque pas devant vous ?
Alors, je vais là encore vous donner un exemple concret. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à mieux répondre. Dans ce documentaire, on a aussi une séquence qui n'avait jamais été montrée, qui concerne Marine Le Pen, qui a accepté qu'on vienne à ses réunions stratégiques hebdomadaires. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est que chaque semaine, le tempo politique, l'image de présidentielle de Marine Le Pen, tout ça se travaille dans ces réunions. Ils sont une douzaine autour de la table et on réfléchit aux arguments, ce qu'on va dire à la presse, qu'il faut programmer en matière de mesures. Et ils ont accepté qu'on rentre. Ils ont accepté qu'on rentre et qu'on reste jusqu'à la fin de la réunion. Ouais. Donc, c'est pas le « vous venez 5 minutes et vous repartez ». Et effectivement, il y a des moments où on voit la vraie politique en train de se faire, des échanges non pas tendus, mais franchement très francs entre la candidate Le Pen et ses équipes. Eh bien, voilà, tout ça, on a réussi en avançant avec nos armes de journaliste, en disant « on veut voir comment ça se passe ». Après, nous, on l'accompagne. C'est le principe même du commentaire dans ce documentaire. Mais d'abord, on montre comment cette fabrique de la politique se fait. Il y a deux enjeux dans ce documentaire. Comment les candidats rencontrent la France ? Deuxième enjeu, c'est comment, en coulisses, derrière le rideau, et on pourra le voir ce soir, comment on fabrique un candidat et un parcours.
Alors, on a beaucoup parlé des coulisses jusqu'à présent. Vous venez de le dire, François-Xavier Ménage, comment les candidats rencontrent la France. Vous avez suivi Marine Le Pen dans un bain de foule. Elle enchaîne les selfies, il y a des cadeaux qu'elle reçoit et elle partage alors à votre équipe son bonheur d'être face aux Français plutôt que face aux journalistes.
C'est très plaisant de se déplacer comme ça. C'est objectivement plus plaisant, pardon de vous le dire à vous, hein, d'être ici que d'être sur des plateaux de télévision. Hein. C'est beaucoup plus sympa. Parce qu'on rencontre les gens, parce qu'on discute avec eux, parce que c'est pour eux qu'on se bat. C'est pas pour les médias qu'on se bat.
C'est pas pour les médias qu'on se bat, dit Marine Le Pen. Peu avant de se rendre à une conférence de presse, et vous êtes les médias.
Mais bien sûr, la conférence de presse, elle a lieu effectivement juste après. Et c'est aussi notre travail que de mettre en perspective, bien sûr. Il y a des phrases de candidats, ils savent ce qu'ils disent quand il y a une caméra d'allumée face à eux. Et puis il y a aussi une réalité de terrain qui est que, bien sûr, oui, quelques minutes après, il y a une conférence de presse et là, changement de ton, elle attaque frontalement Emmanuel Macron. Ben, on raconte aussi tout ça.
On voit les LR, on voit La République En Marche avec Stanislas Guérini, le FN, on l'a dit, le RN, pardon, Éric Zemmour. Sur une heure de documentaire, il faut attendre les 13 dernières minutes pour voir deux candidats de gauche, Anne Hidalgo et Yannick Jadot, un peu expédiés. Pour quelle raison ?
Alors, expédiés, vous êtes un peu dur, mais ce qui est certain, c'est que ce mois de novembre, on raconte les dernières semaines, c'était à grosse dominante, droite et extrême droite. On avait quand même un congrès LR avec une gagnante qui est sortie ce week-end. Donc évidemment, il y avait un défi pour nous que de pouvoir raconter ça. On a aussi un discours d'Éric Zemmour et un combat face à Marine Le Pen qui a été omniprésent pendant le mois de novembre. On n'allait pas mettre ça à la fin du doc. Après, c'est vrai que cette dominante droite sera différente dans le deuxième volet. On a déjà des rendez-vous, des calages d'interviews et de séquences avec des candidats beaucoup de gauche d'ailleurs. Donc il y a non pas un rééquilibrage, mais on va faire les choses différemment pour l'épisode 2. On colle à l'actu, on colle aussi bien sûr à un principe de base qui est de donner la parole à tout le monde de manière équitable. Donc c'est à l'issue des 4 documentaires, puisqu'on va jusqu'à début mars, qu'on arrivera à avoir une vision panoptique de ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas donner une parole exacte à chacun des 12, 13, 14 candidats, parce que sinon ça devient difficile de raconter quoi que ce soit.
La bataille de l'Elysée, c'est ce soir pour le premier numéro à 22h55. Le prochain épisode, ce sera quand ? Vous avez déjà la date ?
Normalement, si je ne dis pas de bêtises, le 17 janvier, un lundi soir à chaque fois.
Merci beaucoup.
Merci
François-Xavier Ménage. Je le rappelle, la bataille de l'Elysée, c'est sur TF1, c'est ce soir à 22h55. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
En direct dans Culture Média. Dans un instant, on va parler de l'émission culte de France 3 qui est consacrée au patrimoine et à l'histoire depuis 24 ans, des racines et des ailes. Numéro spécial consacré aux rives de la Seine de Paris. Ce sera mercredi et nous serons dans quelques instants avec son animatrice, la journaliste Carole Gessler et la rédac-chef de l'émission Hélène Frandon. A tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Carole Gessler.
Bonjour.
Vous êtes la présentatrice du 19-20. Vous êtes une présentatrice du 19-20 de France 3, le JT du lundi au jeudi, mais également vous présentez des racines et des ailes sur la 3. Mercredi soir, il y aura un nouveau numéro. Le thème, c'est Paris. Vous allez nous dire sous quel angle, mais pas tout de suite. Je salue d'abord Hélène Frandon. Bonjour.
Bonjour Philippe Vandel.
Content de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes la rédactrice en chef des Racines et des Ailes. Pardon de cette question, depuis combien de temps ?
Depuis 5 ans, mais ça fait 20 ans que j'œuvre dans cette émission. Avant, j'étais grand reporter, donc je la connais bien.
Alors, c'est à vous que je vais demander le thème de demain. Le thème, c'est Paris, mais c'est l'angle, parce que la difficulté d'une émission comme la vôtre, c'est de trouver des angles. Quel est-il ?
Absolument, c'est Paris, 1000 ans d'histoire. Paris sur Seine, puisqu'on fête les 30 ans du classement des rives de Seine, de ce cœur historique de Paris au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous avez là un fabuleux concentré d'histoire. C'est absolument incroyable. Vous naviguez au fil de la Seine, et chaque monument vous parle d'histoire, mais derrière les pierres, il y a des hommes, les hommes d'hier, les hommes d'aujourd'hui. Comment on a édifié ces monuments, comment on les préserve aujourd'hui, comment on les fait vivre, tout ça, c'est passionnant.
Vous racontez presque aussi bien qu'une bande-annonce, mais quand même, on passe quand même la bande-annonce.
Paris comme vous ne l'avez jamais vu pour ce numéro inédit des Racines et des Ailes. Je vous emmène sur les quais de Seine, partager avec vous 1000 ans d'histoire. Vous aurez le privilège d'accéder à la flèche de la Sainte-Chapelle qui domine l'île de la Cité, symbole de pouvoir royal. Rive droite, vous découvrirez les nouveaux aménagements du Jardin des Tuileries. Il a retrouvé la grande perspective végétale imaginée par le nôtre au XVIIe siècle. Enfin, rive gauche, près de la Tour Eiffel, nous vous ouvrirons les portes du dernier grand monument construit sur les bords du fleuve, l'une des plus vastes cathédrales orthodoxes russes. Paris sur Seine, 1000 ans d'histoire, c'est mercredi, 21h05, sur France 3.
En préambule, vous promettez un regard neuf sur la capitale. Comment on fait pour avoir un regard neuf dans une émission historique qui elle-même est historique et mythique ?
Parce que Paris continue à évoluer, parce que Paris continue à changer, à se rénover. Quand on parle de la cathédrale orthodoxe russe, quand on parle de la Samaritaine, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y retourner, mais tout à coup, c'est un Paris depuis 16 ans qui n'existait plus.
Oui, il y a tellement d'embouteillages que je suis tanqué très souvent devant la Samaritaine.
C'est vrai, ça, mais il faut prendre le vélo, Philippe.
On a le temps de l'observer, la Samaritaine, je peux vous dire.
Donc, c'est vrai que nous, notre parti pris, parce que ça fait 24 ans que cette émission existe, on nous dit chaque fois, mais comment vous faites pour regarder différemment ou nouvellement un monument? C'est parce que ces monuments, ils continuent à vivre. Quand on fait le musée d'Orsay dans cette émission, c'est aussi une façon de dire qu'un musée continue à vivre, à évoluer, à changer sa scénographie pour justement amener les gens à revenir dans le lieu. C'est tout le challenge.
Hélène Frandon, il y a aussi quelque chose qui n'existait pas il y a 24 ans quand l'émission a démarré. C'est aussi bête que ça, mais vous êtes rédac-chef. C'est les drones et c'est les images 3D.
Absolument. Les drones nous apportent quelque chose d'extrêmement précieux, à la fois une vue aérienne en hauteur et en même temps par leur mouvement, ils nous permettent d'approcher les monuments et de se sentir proche. Et la 3D, c'est extraordinaire. Je vais juste vous donner un exemple. La Sainte-Chapelle, on la connaît, mais quand vous la revisitez en 3D, vous comprenez pourquoi elle ne s'écroule pas. Pourquoi, avec toutes ces grandes verrières, ce monument où la pierre est à l'état quasiment de squelette, comment tout cela tient par miracle? Parce qu'il y a une chapelle basse, parce qu'il y a des voûtes à croisées d'ogives, parce que dessus il y a la chapelle haute et les contreforts, et tout ça tient, mais c'est presque du miracle, mais en fait c'est le génie de l'homme.
Je souris parce que j'ai vu l'émission évidemment, et la voûte à croisées d'ogives, pour moi c'était une phrase abstraite. Je ne me représentais pas ce que c'était, jusqu'à hier où j'ai visionné l'émission, et j'ai compris ce que c'était, et je dois dire que les images en 3D sont absolument splendides, extrêmement réussi, en plus d'être spectaculaire.
Mais c'est vrai que la 3D, c'est ce qu'on a envie d'exploiter de plus en plus. Mais la 3D aussi immersive, qui nous permet de nous rendre compte à l'intérieur. Pourquoi pas de revisiter des villes en 3D au Moyen-Âge. Donc la 3D, c'est pas qu'un gadget. C'est vraiment un outil de compréhension.
Et alors, vous êtes très honnête, parce que vous respectez totalement les conditions historiques. Il y a des images 3D de Notre-Dame, et on découvre qu'elle était peinte. Elle n'est pas en pierre blanche comme maintenant. Tout était peint.
Absolument, elle était peinte. Le parvis était envahi par les gens, par les visiteurs, des commerçants. Ça fourmillait de vie. Tout ce qui a disparu d'ailleurs depuis Haussmann.
C'est ce qu'on a montré aussi quand on était allé en Grèce, qu'on a montré que l'Acropole aussi était peinte et tout le monde l'a oublié. Et c'est vrai que la 3D vous permet de vous replonger dans le passé tel qu'était le monument à ce moment-là.
J'étais assez étonné par les toutes premières images, votre plateau de présentation, Carole Gessler. Vous êtes sur le toit du théâtre du Châtelet, qui a été restauré, notamment les quatre statues qui se trouvent en hauteur. Extrait.
Nous nous trouvons sur le toit du théâtre du Châtelet, qui justement a été entièrement rénové. Sa façade principale a retrouvé ses quatre statues d'origine, celles qui étaient présentes lors de l'inauguration par l'impératrice Eugénie au XIXe siècle.
Les quatre statues qui se trouvent en hauteur, on ne les voit pas vraiment d'en bas. Ce qui intéresse les gens, les Parisiens, c'est Paris à hauteur d'homme, à hauteur humaine, c'est-à-dire la fin des plots de béton partout, les machins en plastique jaune, pardon, mais c'est horrible, les feux rouges rafistolés avec du scotch. Pourquoi il n'y a pas un mot là-dessus dans toute l'émission? Et je vois votre sourire que vous comprenez très très bien le sens de ma question.
Comme je vous ai dit, cette émission s'intéresse au Paris historique, au cœur historique. Donc il est plus question de végétalisation, de la présence des abeilles, de la beauté, de la piétonnisation.
Le reproche qui est fait par beaucoup de gens, c'est de salir le cœur historique. Donc on est au cœur de votre sujet.
Non, je crois que le cœur de notre sujet, c'est la beauté, c'est l'histoire et comment on préserve l'histoire. Et notre regard, c'est au fil de la scène, Paris sur scène, ce qu'on voit depuis la scène, ce que moi je vois depuis la scène, comme beaucoup de gens, c'est tout ça, l'histoire et la beauté.
Mais je pense que c'est aussi pas le positionnement de l'émission. Enfin, il faut être très clair, on n'est pas dans une émission polémique, on est dans une émission qui essaye de montrer le meilleur de notre histoire, de notre patrimoine et ce qu'il y a de positif. Alors moi, je défends assez ça, parce que globalement, dans les JT tous les jours, je suis dans la polémique, dans l'opposition, dans le décryptage. Et je pense qu'il y a aussi des moments de pause, et le téléspectateur aussi a le droit à ça, c'est-à-dire de la beauté, de la bienveillance et de l'ouverture.
Et du temps long, parce que c'est une émission qui ne se tourne pas en 24 heures.
Non.
Des racines et des ailes, vous restez avec nous, Carole Gessler, Hélène Frandon, et vous aussi, auditeurs, auditrices. On marque une courte pause.
11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
avec Carole Gessler, présentatrice de l'émission Des Racines et des Ailes, 1000 ans d'histoire, Paris au fil de l'eau. Ce sera le prochain numéro, ce sera mercredi le 8, c'est-à-dire après-demain. Hélène Frondon, vous êtes la rédac chef de l'émission. Je l'ai dit, image absolument somptueuse. Combien de temps de tournage? Et vous travaillez sur un numéro et sur ce numéro depuis combien de temps?
Grosso modo, c'est une année de préparation hein, pour une émission comme telle. Il y a des lieux dont les portes s'ouvrent immédiatement. Il y a des lieux dans lesquels il faut pénétrer. Ça prend du temps. Par exemple, on n'entre pas sur le chantier de Notre-Dame de Paris comme ça le mois d'après. Mmh. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de confiance. Et grâce à la longévité de notre émission, eh bien, nous arrivons à tisser ces liens de confiance et les portes s'ouvrent. On ne rentre pas non plus dans le palais de justice comme ça aisément. On est d'abord reçu, on doit discuter, on doit convaincre et ensuite seulement, les portes s'ouvrent. Ensuite, il y a tout le travail de 3D qui prend énormément de temps, le graphisme. Voilà, tout ça, ça nécessite une année.
Convaincre de quoi? On recevait François-Xavier Ménage qui disait qu'il doit essayer de convaincre les équipes politiques. On imagine que pour une élection, on a des choses à cacher. Mais là, y a-t-il à cacher au palais de justice? Au contraire, c'est somptueux. On imagine que chaque administrateur voudrait montrer l'espace.
En fait, ils ont besoin de savoir si nous allons avoir une bonne appréhension du sujet, si on va donner les bonnes informations historiques, si on ne va pas rentrer dans des polémiques. Il y a toujours peut-être une petite méfiance, c'est normal. Voilà, est-ce qu'on ne va pas non plus être superficiel? C'est juste trouver le ton juste et la bonne information de la bonne façon. Et jusqu'ici, on a toujours rassuré.
Ce sont des grosses équipes. Combien de personnes travaillent sur l'émission?
Sur le terrain, vous avez une équipe normale de 3 personnes. Mmh. Voilà, une rédactrice en chef et Carole qui vient sur le terrain pour les plateaux, pour repérer les plateaux avec nous. C'est une petite famille, mais solide.
Les plateaux, c'est plus de monde. Déjà, il faut, faut monter tout le matériel sur le toit.
C'est plus de monde. On est une dizaine de personnes. Effectivement, il y a quand même beaucoup de matériel à monter. Il y a le drone et travailler ce qu'on dit les re-tech, c'est-à-dire que globalement, je fais mon texte et puis après, je fais semblant de parler au drone. Voilà, il y a des petites astuces. C'est un peu comme dans une fiction. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'un rendu antenne d'une minute peut prendre une demi-journée.
Sur le service public et même sur France 3, il y a deux émissions d'histoire, Des Racines et des Ailes, votre émission également Secret d'Histoire, présentée par Stéphane Bern. Comment faites-vous pour ne pas vous marcher sur les pieds?
Alors déjà, nous, on n'est pas une émission d'histoire.
Pardonnez-moi, Paris, 1000 ans d'histoire, c'est de l'histoire.
Oui, mais on est 1000 ans d'histoire et l'histoire qui continue. Je crois que c'est la différence avec Stéphane Bern. Stéphane Bern va nous donner une page d'histoire, un personnage d'histoire. Nous, on va faire en sorte de raconter l'histoire telle qu'elle continue encore aujourd'hui. Quand on va à l'hôtel de la Monnaie et qu'on voit ce qu'il reste de cet atelier qui continue à façonner les pieds,
quand on voit monnaie.
Exactement, battre monnaie. Quand on voit Guy Savoie, un de nos plus grands chefs, qui vient animer ce lieu encore une fois. Quand je parlais de la Samaritaine et qu'on part de l'histoire de ce petit vendeur du Pont Neuf qui en a fait l'un des plus grands magasins qui aujourd'hui est rénové et en fait un lieu à la fois du temple du luxe, de la consommation, mais en même temps un lieu qu'on a rénové avec ses balustrades art déco, etc. On est en train de montrer l'histoire telle qu'elle continue et qu'elle va encore continuer.
Prochain numéro, vous le connaissez déjà?
Prochain numéro, nous allons vous inviter bientôt en Normandie sur les traces des ducs de Normandie et vous allez voir que là aussi il y a un travail de 3D, de graphisme extraordinaire et je pense que vous n'aurez jamais entendu parler de la tapisserie de Bayeux, de la façon dont vous l'entendrez. C'est extraordinaire.
Voilà. Et prochain tournage?
Voilà, prochain tournage parce que j'y tiens beaucoup et c'est un projet qui m'excite beaucoup. C'est d'aller au carnaval de Venise, mais en immersion. On va un peu changer la formule et je serai en immersion comme je le faisait dans Immersion Totale il y a quelques années.
Vous
sur France 2.
Vous
allez être déguisé ? Bah pourquoi pas, on va réserver quelques surprises. C'est d'ailleurs qu'on va continuer à parler de patrimoine, à explorer Venise, mais à être vraiment dans l'immersion de cette frénésie, de cette fantaisie, de cette exubérance de Venise.
Tout en découvrant le Venise secret et merveilleux.
Si vous le filmez trop, il sera plus secret. Je vous dis juste ça comme ça. C'est tout le temps.
Non, on ne donnera pas toutes les adresses. Le on va donner envie.
C'est la malédiction du secret à la télévision. C'est qu'ensuite, ça cesse d'être secret par définition. Le 19-20, ça marche toujours très, très bien. Comme dit Ouest France, en tête des audiences, dans la plus grande discrétion, vous suivez vos audiences, Carole Gessler?
Tous les matins, vous voyez, à 9h01, ça tombe sur le portable. Et soit on a un grand sourire, soit on est un petit peu déçu, on regarde. On essaye vraiment de coller aux attentes.
Vous avez bien un grand sourire samedi matin. Parce que j'ai regardé les audiences de vendredi, vous étiez encore en tête des audiences.
Oui, alors oui, sourire.
3,06 millions, devant TF1, 3,01, Demain nous appartient, devant Objectif Top Chef, devant les talk shows.
Mais maintenant, on a un grand challenge, c'est cette campagne présidentielle, et notre objectif, c'est notamment d'aller voir les candidats sur le terrain, et potentiellement, non pas de les faire venir en studio pour faire les interviews, mais d'aller, à l'occasion de meeting, que je fasse des interviews sur le terrain, pour être vraiment proche des gens. C'est quand même l'objectif aussi de France 3.
Avant les meetings, après les meetings, ça va être quand c'est... Je me souviens que vous aviez une séquence appelée Au bout de la ligne pendant les régionales.
Ouais.
Là, ce sera des interviews de vous sur place.
Il y a deux. Il y a à la fois de faire des sujets où on ira sur, on va dire, les nationales et sur les routes de France pour aller au plus près des Français de leurs préoccupations. Et deuxième, pendant la dernière ligne droite de la campagne, c'est de faire des interviews des candidats sur le terrain avant, après les meetings, d'essayer de coller et d'avoir vraiment quelque chose de plus proche plutôt que de les faire venir en studio.
Merci beaucoup, Carole Gessler. Merci. Également, Hélène Frandon.
Merci.
Vous êtes la rédac-chef, Hélène, des Racines et des Ailes. Donc, je rappelle, Paris sur Seine, 1000 ans d'histoire. Ce sera mercredi après-demain sur France 3 à 21h. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, Philippe.
En direct, Culture Média continue après les infos de 10h. Vous allez retrouver les télescopages de Bruno Donnet hier. Il a suivi la manière dont les journalistes ont été traités lors du tout premier meeting d'Éric Zemmour. Notre invité sera l'auteur et dessinateur Philippe Gueluc pour Les Mots du Chat, recueil de ses meilleures citations qui accompagnent toutes les histoires du chat. Et puis dans Les Indispensables, Une Femme du Monde avec Laure Calamy dans le rôle d'une mère courage prostituée. L'humoriste et imitateur Marc-Antoine Lebret en toute fin d'émission. Quel programme? À tout de suite sur Europe 1.